RCF.
En débat, une émission produite par les médias catholiques belges francophones. Présentation, Jean-Jacques Duret, Anne-Françoise de Beaudrap. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'émission En Débat, celle qui traite de l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, eh bien, c'est l'école, puisque notre invité, c'est John Rizzo, qui est l'auteur d'un livre, Sauver l'école, aux éditions Care Édition, dans la collection Témoins du Monde. John Rizzo, bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Anne-Françoise de Beaudrap est là aussi également. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Alors, on va parler école, effectivement. École, c'est un grand sujet, on en parle très, très souvent. John Rizzo, en préparant l'émission, vous avez dit... Finalement, tous les acteurs de l'école ne sont pas contents. Alors, est-ce qu'il y a un mal-être dans le monde de l'enseignement ?
Oui, il y a certainement un mal-être, en tout cas que j'ai ressenti sur le terrain. Bien sûr, je ne connais pas tous les enseignants, mais beaucoup de ceux que j'ai croisés ne sont pas contents de la situation. J'ai l'impression qu'ils voudraient faire mieux, mais qu'ils sont dans une situation d'organisation, si je puis dire, qui les coince à ne pas faire exactement comme ils voudraient. Ils n'ont pas d'autonomie, finalement. Par exemple, l'école est un monde extrêmement cloisonné. Vous donnez cours en secondaire supérieur, ou secondaire inférieur, ou primaire, ou maternelle. Cloisonné entre réseaux, cloisonné, vous donnez cours de français, ou de maths, ou d'anglais. Il y a des ouvertures, mais c'est difficile, par exemple, d'être un anglophone qui vient donner cours de maths. C'est pas encore bien vu partout, c'est pas accepté par les collègues, ou alors le fait que l'insécurité est très mal partagée aussi. En début de carrière, un enseignant a peut-être un demi-horaire, donc un demi-salaire. Il faut vraiment dire ce qui est. Il va être pris un mois, puis pas le mois prochain. Alors qu'en fin de carrière, il est très, très intouchable, si j'ose dire. Et donc, voilà, j'ai l'impression que ce monde cloisonné à l'extrême, presque bureaucratique, finalement, ne satisfait personne. Et les enfants non plus. Demandez aux enfants à la sortie de l'école, est-ce que tu es content d'aller à l'école? Parfois, ils vous disent oui, vous demandez pourquoi? Et ils vous répondent quoi? Pour voir les copains. Moi, je trouve ça vraiment malheureux.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu qui, effectivement, est assez difficile? Vous étiez auparavant dans le monde des affaires, dans le monde informatique. Pourquoi avoir plongé, parce que c'est vraiment le mot, dans le milieu de l'école?
Il faut savoir que j'enseignais toute ma vie. Donc, la pédagogie et l'informatique sont mes deux passions. Et donc, j'ai conjugué ça au niveau professionnel en enseignant l'informatique et en faisant une société après de formation d'informatique. Donc, j'ai eu la liberté, finalement, de concevoir des programmes avec toute la liberté que je voulais, de former des formateurs, de les recruter comme je voulais, par exemple, d'envisager avec les étudiants adultes comment ils voulaient apprendre. Et ils n'avaient pas tous la même réponse. Et donc, j'ai pu faire beaucoup d'expérimentations, notamment avec Internet, puisque c'était mon métier d'informaticien. Et donc ma spécialité, si vous voulez, c'était d'avoir optimisé l'usage d'Internet pour aider les adultes à apprendre, tout en sachant que l'école des robots, c'est pas celle où les enfants sont sur Internet. Et donc ma question, c'était, est-ce que ces méthodes que j'avais mises au point avec des adultes fonctionnaient avec des enfants? Et c'est ça que j'ai voulu expérimenter, et c'est comme ça que je suis devenu instituteur primaire.
Cela devait être assez original dans une école de vous voir arriver, vous qui avez l'expérience professionnelle, vous qui proposiez des courtes missions. Est-ce que vous avez été facilement accepté et...
la première fois, je me suis fait tout petit. Je vous avoue que je n'en menais pas large. Donc, je me souviens, c'était en deuxième primaire, dans une école du centre de Bruxelles, avec des enfants charmants, des enseignants charmants, une très chouette école. Assez strict et très très chouette, et j'essayais juste d'abord d'apprendre mon métier. Et donc je remercie tous les enseignants que j'ai croisés, j'ai rencontré aussi des dizaines d'acteurs de l'enseignement en lunch ou en discussions diverses. J'ai lu énormément de livres. Donc, je remercie tous ces gens, finalement, de m'avoir apporté leur science du monde scolaire, qui n'est pas la même que pour les adultes. Mais je me suis demandé, tiens, voilà, quand je recrute et qu'un candidat ne convient pas, pourquoi est-ce qu'il ne convient pas? Et pourquoi tant de candidats, finalement, ne conviennent pas selon mes critères? Et j'ai voulu me demander, remonter toute la filière. Donc, j'ai d'abord été donner cours à des demandeurs d'emploi. Et puis, j'ai été voir les enfants. Et tous les enfants que j'ai vus étaient capables de choses extraordinaires. Ils étaient capables de devenir trilingues. Ils étaient capables de travailler dur pour avoir un résultat. Peut-être chacun un résultat différent, mais ils étaient capables d'arriver à l'heure avec la niaque. Or, ce n'est pas ce qu'on constate 20 ans plus tard, malheureusement.
Est-ce que ça voudrait dire que le monde de l'enseignement doit s'adapter un peu aux attentes du monde professionnel, du monde du travail?
Je ne pense pas que c'est une question du monde du travail, je pense que c'est une question de société. Si on regarde l'école maintenant, pour moi, ses fondements datent du 19e siècle. Le fait de dire, voilà, les enfants de 10 ans sont ensemble et apprennent tous la même chose, ils sont assis dans une classe par 25, porte close, et ils doivent se taire. Ça, c'est quelque chose qui est hérité. C'est pas quelque chose qui était décidé de mon vivant, ça c'est sûr. Donc c'est clair qu'à l'époque, on avait besoin d'ouvriers corvéables, d'une armée de fonctionnaires gratte-papier, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Il fallait toute une chaîne de hiérarchie extrêmement efficace. Il n'y avait pas d'email pour envoyer les instructions. Beaucoup de gens ne savaient pas lire, donc il fallait vraiment une obéissance. Pour que la société fonctionne, il fallait être fort en travail répétitif. Le 21e siècle n'est plus comme ça. Que ce soit dans le milieu associatif ou à l'État ou dans le monde du privé, je ne pense pas que c'est une question du monde de l'entreprise qui essaye de faire un complot adéquationniste pour que l'école convienne et lui envoie des bons petits soldats. Non, au contraire. Maintenant, les patrons, qu'est-ce qu'ils demandent? S'ils pouvaient demander qu'une chose à l'école, c'est que les élèves en sortent en disant « apprendre ». Je trouve ça chouette. Ils ne demandent pas autre chose. Parce qu'ils savent bien que ce dont ils ont, les compétences dont les employés ou les ouvriers ont besoin ne seront pas enseignées à l'école. Parce qu'il y a tellement de spécialisations dans tellement de domaines, ils savent bien qu'ils vont apprendre on the job, si on peut dire. Ou en étant curieux, ou en allant sur Internet, ou en discutant avec leurs collègues. Et donc ce désir d'apprendre, cette passion d'apprendre, est essentiel dans la société du 21e siècle.
Voilà, on va marquer une courte pause et on reprend directement. Deuxième partie de l'émission En débat, consacrée aujourd'hui à l'école, avec notre invité John Rizzo, auteur d'un livre « Sauver l'école ». Juste avant l'interruption de John Rizzo, vous parliez justement en disant ben voilà, le modèle scolaire tel qu'on l'a connu et tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, il date à la limite du 19e siècle. Est-ce que ça veut dire alors aujourd'hui que l'école n'est plus en phase avec la société?
Pour moi, c'est flagrant. C'est pas évident qu'on ait le nez dans le guidon, mais pour moi, c'est clair qu'on n'améliorera pas la situation en faisant plus de la même chose. Comme dit un grand, j'aime bien faire beaucoup de citations dans le livre. Donc, je pense qu'il y a une centaine de citations. Je pense que la force du livre, c'est d'essayer de donner un regard extérieur, de prendre du recul et finalement de ne pas dire autre chose que ce que tout le monde dit déjà, mais parfois avec une certaine cacophonie. Et dans ce recul, pour moi, il est clair que la société du 21e siècle a besoin de citoyens autonomes, entreprenants, qui savent collaborer, qui savent communiquer, et qui aiment apprendre, qui ont du plaisir à apprendre. Et ce n'est pas en leur disant toute la journée « assis et tais-toi » qu'on va leur transmettre ça.
Alors, votre livre s'intitule « Sauver l'école », mais est-ce que ce ne sera pas plutôt « réinventer l'école » Parce qu'on a un peu l'impression qu'il faut dire ben, « on fait table rase et on repart de zéro ».
C'est pour ça qu'il y a un double point d'interrogation. Et la conclusion du livre, c'est de se demander, d'abord, est-ce qu'on peut sauver l'école? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que l'école actuelle a envie d'être sauvée? C'est même pas sûr.
Et qui peut sauver l'école aussi?
Qui peut sauver l'école, certainement. Et est-ce que sauver l'école actuelle n'est pas prolonger son agonie? Donc voilà, je n'ai pas de réponse à ces questions parce qu'il y a autant de réponses que d'écoles. Chaque école est dans une situation très différente. Il y a des écoles qui fonctionnent merveilleusement bien, où les enfants sont très heureux et ont de très bonnes performances scolaires par rapport à leur niveau de départ. Il faut savoir que les enfants, quand ils arrivent en maternelle, même s'ils ne parlent pas français, déjà rien que, par exemple, dans la langue arabe qu'ils parleraient à la maison, par exemple, ils ont un niveau de vocabulaire très, très différent d'un enfant à l'autre. Alors si en plus, ils ne maîtrisent qu'une seule langue au départ et pas deux, il y a des familles bilingues, hein, ne fût-ce que français et néerlandais, par exemple, bah, tout ça forme le cerveau à une certaine vivacité. Et l'école doit essayer de compenser, de rattraper ça. Et pour l'instant, je trouve que ça ne marche pas très bien.
Oui.
Alors, Françoise, vous dites que donc vous avez rencontré quand même des jeunes, des élèves qui sont enthousiasmes, souriants. Quelles sont les recettes ou les clés que vous avez pu constater qui permettent un certain épanouissement des enfants d'une part et aussi de leurs enseignants d'autre part? Est-ce que vous avez vu des enseignants heureux?
Oui, tout à fait. Donc, c'est clair, d'abord, il n'y a pas de recette miracle. Donc la grande chose que j'ai apprise du système scolaire, c'est que quand on tire sur le fil, il y a tout qui lie et tout qui vient. Quand on parle par exemple d'autorité, on parle de discipline. Quand on parle de discipline, on parle est-ce que les enseignants sont heureux d'être dans cette école-là? S'ils sont heureux d'être dans cette école-là, on parle de turnover. Est-ce que les enseignants changent souvent? Il y a des écoles où les élèves sont plus vieux que tous les enseignants. bref, quand on parle de ça, on parle des parents, du choix d'inscription, etc. Donc, tout est vraiment lié. Donc, c'est très difficile de ne pas s'attaquer à tout à la fois. Alors, la recette d'une école idéale, si je puis dire, qui fonctionne bien, bien, par exemple, je pense qu'un pilier essentiel, c'est que les acteurs de terrain savent ce qui est bon pour leur école. Et donc, si les acteurs de terrain se sentent déresponsabilisés par trop de règles, trop de décrets, trop de bureaucratie, ils se disent finalement, finalement, ça ne marche pas bien, mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ai décidé. Et donc, c'est très déresponsabilisant.
Donc, ça veut dire que les acteurs de terrain, pour vous, prennent quand même conscience qu'il faut changer les choses et que c'est ailleurs qu'on n'entend pas le message.
Je pense que c'est global. Je pense que si on regarde, par exemple, le pacte d'excellence, il appuie aussi sur l'autonomie des écoles. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, il y a une prise de conscience générale partout dans le monde, pas seulement en Belgique, sur ce qu'il faut faire. Mais le principal ennemi de l'école, pour moi, l'école est en guerre. Et l'école est en guerre contre l'immobilisme. Si je demande à toutes les associations qui s'occupent de l'école, hein, associations parascolaires ou des associations de formation d'enseignants ou des associations de parents, enfin peu importe, pour eux, leur principale difficulté, c'est de ne pas avoir l'impression de vider l'océan avec une cuillère.
Oui, d'accord. Mais quand on entend votre discours, moi je me dis depuis des dizaines d'années, chaque ministre qui passe au poste de l'enseignement, sans vouloir faire une réforme pour, je dirais, moderniser l'enseignement, on a parlé des socles de compétences, et puis enfin, il y a eu plein de projets, toutes ces réformes finalement n'ont pas nécessairement donné de bons résultats. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même une responsabilité politique dans l'approche
Évidemment, évidemment. Prenons par exemple l'informatique. Le premier plan, c'était l'espèce de plan cyberclasse où on envoie massivement des ordinateurs dans les écoles. J'ai vu des caisses qui n'avaient jamais été déballées, donc des écoles qui ont reçu des ordinateurs. Et finalement, ils n'ont pas besoin d'ordinateurs. Par contre, Simonet, ou son prédécesseur, je ne sais plus, enfin, durant Simonet, il y avait le plan qui demandait aux acteurs de terrain d'envoyer un projet, leur projet, Alors, ça peut être un tableau interactif, ça peut être des tablettes, ça peut être des choses très très riches et variées, comme du Wi-Fi généralisé dans l'école. Mais alors, à partir du moment où les acteurs du terrain viennent avec leur projet, c'est une démarche qui n'a rien à voir. Quand c'est accepté, finalement, ils sont demandeurs et ils s'approprient finalement l'aide que peut leur proposer l'État. Donc il y a vraiment un partenariat, je pense, entre le sommet et la base qui doit se faire. Et il y a des exemples de choses qui marchent bien. Je ne suis pas là pour dénoncer ou pour dire que les profs ou l'État, etc., sont des mauvais. Non, au contraire. Je pense que tous ces gens font ce qu'ils peuvent, mais beaucoup sont enfermés dans le toujours plus de la même chose. Hein, on va augmenter les doses, ça ira mieux. Non, à un moment donné, il faut être disruptif et se dire la société a profondément changé. L'informatique est arrivée... Et à mon avis, il y aura beaucoup plus d'impact que l'imprimerie. Et donc, de se dire, voilà, il faut maintenant... L'école qui ressemblait peut-être à une usine ou une caserne avant doit certainement plus ressembler à une bibliothèque.
Voilà, on va marquer encore une dernière pause et on va reprendre tout de suite sur ce thème. Avant l'interruption, donc retour dans l'émission En débat avec John Rizzo, notre invité, auteur du livre Sauver l'école. On parle donc d'école, vous l'avez compris. On parlait justement de choix de métier. Alors, est-ce que justement là il y a aussi un problème, c'est que il n'y a pas réellement, je dirais, de passerelle entre le monde, ou la réalité d'un métier et la réalité des études. Donc parfois, des enfants ou des étudiants se lancent dans des études. Et puis, ça correspond pas du tout à ce qu'ils s'attendaient, parce que la réalité, une fois qu'on est passé de l'autre côté, qu'on commence à travailler, on se rend compte que parfois ça ne correspond pas à ce qu'on pensait. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette espèce de fossé, je veux dire?
Ce fossé et bien d'autres peuvent être, à mon avis, résolus en décloisonnant. C'est un mot que Pascal Chardom a lancé à la conférence du 30, que j'aime beaucoup. Par exemple, si un enseignant, après 10 ans de métier, j'en ai encore rencontré une qui a fait ça récemment, elle décide, cette enseignante, voilà, de changer de métier et de faire autre chose dans le privé pendant 5 ans. Et puis elle revient comme enseignante, mais elle revient avec un regard tout à fait différent. Et donc, si on permet, une autre qui me disait, voilà, elle était journaliste au soir, elle se reconnaîtra sûrement, et puis elle était frustrée parce que quand elle était petite, elle voulait faire enseignante et elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Et elle se dit, je vais quand même le faire. Donc elle est devenue enseignante, un peu mal vue, une espèce de fausse enseignante, une espèce d'article 20 comme moi je l'ai été. C'est pas toujours bien vu partout. mais je suis sûr qu'elle a apporté une richesse extraordinaire avec ce qu'elle connaissait de l'extérieur. Et donc diviser le monde entre vrais pédagogues et faux pédagogues ou profs et parents, il faut tout un village pour élever un enfant finalement. Et ce cloisonnement, à quelques niveaux qu'il soit, est préjudiciable. Ici, par exemple, on parle du choix de métier. Si on a des enseignants qui viennent avec une expérience extérieure, c'est clair qu'ils vont parler de leur expérience avec passion. Tout ça va percoler, sera peut-être à la récré ou pendant même des pauses. Mais c'est vraiment fondamental dans une expérience de vie pour moi.
Et dans le livre, vous racontez aussi la tentative que vous avez essayé de mener de décloisonner au niveau aussi des âges et des groupes qui existaient déjà dans une classe, bon, tout en sachant que vous étiez remplaçant, donc vous ne vouliez pas non plus tout bouleverser l'organisation d'une école. Mais quelle était un peu la philosophie de ce que vous avez essayé de faire dans ces écoles un peu, comment vous les appelez, mutuelles?
Donc pour moi, ça c'est vraiment très très important. On peut parler pédagogie, de technique ceci, de didactique cela. Pour moi, le changement opéré, il est philosophique. Il faut arrêter de donner les matières et mettre toute l'énergie des enseignants dans le fait d'inciter les enfants à les prendre. On ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. Quand un enseignant est face à une classe qui veut tout juste faire 50% par point de plus, il perd son temps, son salaire est perdu. Quand on parle de financement de l'enseignement, en fait, on est surfinancé. C'est juste qu'il y a un gaspillage de temps monstrueux face à cette démotivation, finalement. Et c'est très triste, et aussi pour les profs. Moi j'ai beaucoup de souffrance. Alors, si on se dit, on va mettre notre énergie pour qu'ils prennent, ça se passe comment? Il faut fixer des objectifs. Je pense que moi, je suis d'une exigence crasse. Je n'aime pas l'école que bonheur, où on laisse un peu les enfants faire ce qu'ils veulent. Non, j'aime bien l'école où les enfants sont heureux et motivés, mais pour atteindre quelque chose quand même de probant au niveau scolaire. Et donc, une fois qu'on fixe ces objectifs qui peuvent être différents pour chaque élève de la classe, on part de là où il est. En première secondaire, par exemple, des enfants qui ne savent pas leur table de multiplication. Ça ne sert à rien de commencer avec des équations des inconnus, c'est idiot. Il faut commencer par les tables de multiplication. Une fois qu'on leur fixe ces objectifs et qu'on leur dit clairement comment se tester par rapport au fait d'avoir atteint cet objectif, on peut leur laisser toute liberté finalement sur la manière d'apprendre. Certains préféreront regarder une vidéo, d'autres préféreront discuter avec leurs voisins pour se le faire expliquer, d'autres préféreront lire un livre ou faire un expert, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que l'élève s'habitue à se demander qu'est-ce que je vais faire ce matin, quelle matière je vais apprendre, comment je vais l'apprendre, avec qui. Est-ce que je peux aider quelqu'un d'autre à apprendre? Pour moi, c'est plus important encore que l'étape de multiplication ou ce qu'il pourrait apprendre. Et donc, en faisant ça, une fois que j'ai mis ces objectifs, j'ai vu que les élèves apprenaient à des vitesses très différentes. Que ce soit de 6 à 66 ans, j'ai remarqué que les plus rapides de la classe pouvaient apprendre 3 fois plus vite que les plus lents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ralentit les rapides, on force les plus lents à aller plus vite en disant « Arbeit !» Et si tu n'aimes pas l'école, tant pis. Non. Donc, j'aime bien que chacun avance à sa vitesse, mais alors, je ne peux plus faire d'explications collectives. Donc, la clé du succès pour moi, c'est de faire beaucoup moins d'explications collectives. À partir de ce moment-là, les enfants évoluent à leur vitesse, et comment est-ce qu'ils vont apprendre? Je m'imagine mal courir comme une poule sans tête entre 20 élèves, répéter 20 fois une explication individuelle. Donc pour moi, la clé du succès n'est pas ce que je croyais. J'avais imaginé l'informatique, j'avais préparé en 4e primaire un dossier avec 5 vidéos YouTube où des enseignants beaucoup plus qualifiés que moi expliquaient très très bien la matière que les enfants devaient apprendre. Je dis voilà aux enfants, ok, maintenant je me tais, apprenez. Eh bien, quelle fut pas ma grande surprise, finalement, de constater qu'ils n'ont pas regardé ces vidéos. Ils n'en avaient rien à faire. Ils ont commencé à parler entre eux pour s'expliquer la matière l'un l'autre. Et ceux qui expliquaient étaient en train d'apprendre aussi, parce qu'ils n'expliquaient pas forcément juste ou très bien. Mais à force de réexpliquer et d'avoir un débat contradictoire avec d'autres enfants, finalement, ils ont appris cette matière en plus du savoir-être, du savoir communiquer, du savoir collaborer, etc.
Est-ce que, puisque vous faites le constat dans le livre et également dans vos discussions, que finalement l'enseignant n'a pas forcément besoin d'être présent tout le temps? Il y a même des moments où vous dites que vous vous êtes ennuyé parce que les élèves étaient autonomes, ils s'expliquaient la matière eux-mêmes. Est-ce que vous êtes fait des amis dans les lecteurs du livre qui constatent que, voilà, être enseignant, ça n'occupe pas une journée complète?
Je n'ai pas fait ce livre pour me faire des amis. J'ai fait ce livre pour qu'on se pose certaines questions. Et quand je vois des enseignants qui débattent de ces questions entre eux, sans être d'accord avec moi ou sans être d'accord entre eux, je pense que le pari est gagné finalement. Alors, par rapport au nombre d'élèves et à l'ennui des enseignants, je pense que j'avais une classe assez typique dans le dernier chapitre des écoles parcourues. Pas favorisée spécialement, très multiculturelle, mais pas non plus rebelle. Eh bien, dans cette classe, il y avait le quart d'élèves qui demandaient une attention soutenue. C'est-à-dire que le quart des élèves n'arrivaient pas à s'entreprendre. Bon, ils n'étaient pas habitués à faire ça depuis la maternelle, mais il y avait un vrai travail à faire avec eux pour qu'ils puissent se mettre au travail, sans contrainte, si je peux dire. Le trois quarts des élèves, par contre, fonctionnait très bien. Et ce trois quarts d'élèves, à mon avis, un enseignant pour en avoir une centaine, comme ça s'est fait au XVIIIe siècle dans les écoles mutuelles. Maintenant, c'est pas ce trois quarts d'élèves qui arrivent tout pliés, tout rangés à l'école qui m'inquiète. Ceux-là, à mon avis, ils pourraient apprendre tout seuls, avec une bienveillante stimulation d'une équipe, hein, évidemment. Hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est le quart d'élèves qui n'y arrivent vraiment pas. Et j'aurais préféré que de temps en temps, ces élèves, ils aient un cours de gym en plus, ou qu'ils aillent visiter une ruche, ou qu'ils fassent quelque chose de plus concret peut-être, qui leur convienne mieux à eux. Et dire, voilà, ben, je prends tous les enfants, ce quart-là et les trois quarts autres, parce qu'ils sont du même âge, je les mets dans une classe toute la journée. Ça ne me paraît pas une organisation d'école qui convienne au XXIe siècle. J'aurais préféré qu'il y ait une moitié des enseignants qui se consacrent aux trois quarts des élèves et qui les fassent avancer tout seuls, si je puis dire, hein, avec de l'aide bienveillante, et que le quart des élèves soit pris en charge par l'autre moitié des enseignants. Et que des va-et-vient entre ce quart et ce trois quarts puissent se faire. Un élève du quart plus difficile qui s'en sort bien et qui progresse, ben pourquoi il ne rejoindrait pas les autres, ne fût-ce que pour une heure, ne fût-ce que pour une semaine, par exemple.
Voilà, Ben John Rizzo, on aurait encore plein de choses à poser et un long débat. Malheureusement, le temps imparti est là et donc on arrive en fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté d'abord notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre « Sauver l'école » dans la collection « Témoins du monde » aux éditions Kerr Éditions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis on aura certainement l'occasion de vous recevoir parce que je crois que le débat est loin d'être clos. Merci aussi Anne-Françoise. À très bientôt à tous.
Merci à vous.
Se passe de moi, comme elle est fière et secrète parfois, comme elle donne tout à chaque fois, elle met des petits chapeaux et moi ça me va.